Corinthiens. On a vu les chapitres 13 parle d'amour, de l'amour. Et dans ce chapitre 14, Paul, il continue son explication sur les dons spirituels et leur utilisation dans les cultes, dans l'Église. Et il dit que, premier verset, il est clair, il dit « recherchez l'amour ». Donc, voilà la première chose qu'il faut vraiment rechercher, c'est l'amour. Et cela implique une volonté. Ce n'est pas un don, mais c'est quelque chose qu'on doit rechercher. C'est quelque chose que Dieu, il donne automatiquement. Mais il dit « rechercher », mais il dit ensuite « aspirer au don ». Parce que les dons, ils sont nécessaires. Le mot « don », c'est le mot « zélo », à aspirer. C'est le mot « zélo » en grec, qui ça veut dire « avec zèle ». Avec zèle et avec un feu brûlant l'intérieur de nous-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'avec ces dons, nous devons faire du bien dans l'Église, dans le corps de Jésus-Christ. Ils nous ont été donnés que pour cela, pour édifier, pour consoler, pour édifier. Pourquoi est-ce que nous devons aspirer aux dons spirituels ? Est-ce que c'est pour nous exalter, pour une ambition personnelle, pour briller ? Non, c'est seulement pour servir. Le Seigneur, il nous donne ses dons spirituels pour servir nos frères et sœurs et pour pouvoir avancer dans ce corps. Donc, nous devons les aspirer à ces dons avec zèle et efficacité pour faire du bien à qui, encore une fois, pas à nous-mêmes, mais à l'Église, à nos frères et sœurs. Hein? Certains utilisent mal le don. Et on sait bien qui c'est. Hein? Il y a eu, on en a parlé un peu la semaine dernière, des pentecôtistes. Mais c'est à partir du 9e siècle seulement, parce que terminé le 1er siècle, on ne trouve plus de traces de ce don de parler en langue dans toutes les églises. On ne trouve pas trace. On le retrouve au 9e siècle, qui c'est avec le mouvement des pentecôtistes. Et aujourd'hui, il y a aussi les frères charismatiques qui ils se sont enfoncés là-dedans. Et ces deux mouvements, ils mettent en avant le don de parler en langue en disant que c'est seulement lorsqu'on parle en langue qu'on a reçu le Saint-Esprit. Et ça, c'est contraire à ce que la parole de Dieu, il nous dit. Et ici, Paul, il s'attarde sur deux dons. Hein? Il le dit clairement, la prophétie, hein? J'ai aspiré au don, mais surtout à la prophétie. Vous voyez, il ne nomme même pas les dons des langues. Et c'est, comme on dit, le mot qui revient le plus souvent dans ce chapitre, c'est le mot édifier. Édifier. Tout est fait pour l'édification du corps de Christ. C'est un mot que nous devons avoir constamment dans nos pensées. Le don de langue. Regardez ce qu'il dit à propos de ce don de langue. Au verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Pourquoi ? Car personne ne le comprend. Parler en langue, ça veut dire quoi ? C'est s'exprimer dans une langue que les gens ils ne connaissent pas. Et si moi, je me mets à prier en italien, je parle à qui ? Sûrement pas à vous. Je parle à Dieu. Il n'y a que Dieu qui me comprend. C'est voilà pourquoi Paul dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. On parle en langue, mais dans les langues encore connues, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est un esprit qu'il dit des mystères, des mystères. Pourquoi les apôtres avaient-ils besoin de se parler en langue? Mais justement, pour expliquer les mystères de Dieu, pour expliquer ce que Dieu demande et aussi pour faire avancer le message de l'Église. Les pentecôtistes, ils disent qu'il s'agit d'un autre parler en langue, mais la Bible, il n'en parle pas. Donc, nous devons nous tenir à ce que la parole de Dieu, il nous dit. Pourquoi? Parce que le mot « langue » en grec, c'est le mot « glossa ». C'est une langue. C'est une langue. Hein? C'est est confirmé par le fait que cette langue, il doit être interprétée. D'ailleurs, plus loin, il nous dit que celui qui parle en langue, il faut qu'il y ait interprétation. Pourquoi? Parce que sinon, les gens qui sont là, ils ne comprennent pas. Et si on ne comprend pas, comment pouvons-nous dire « Amen » Parce qu'on ne comprend pas. Donc, voilà pourquoi, de parler en langue des pentecôtistes, ils veulent l'utiliser, celui-là, comme un nouveau réveil. Si vous avez entendu des fois ou lu, ils parlent d'un nouveau réveil, d'une nouvelle Pentecôte. C'est-à-dire que tous, ils doivent parler en langue pour qu'ils soient sauvés. Et ça, c'est quelque chose de contraire à la Bible, parce qu'on a déjà vu, il nous est dit que c'est l'Esprit qui distribue à chacun les dons. Est-ce que tous ils parlent en langue? Non. Est-ce que tous ils prophétisent? Non. Est-ce que tous ils ont les dons de guérison? Non. Dieu, il distribue à qui il veut ce don. Donc, les pentecôtistes, ils sont complètement sur un mauvais trajet. Les apôtres, ils étaient dedans, et il nous est dit dans Acte 2, que les apôtres, ils ont parlé en langue. Et c'était pendant la fête, les grandes fêtes de l'Éternel, et tous les Juifs qui étaient ailleurs, éparpillés dans le monde entier, ils étaient obligés, selon la loi, à venir à Jérusalem pour louer Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit, il est venu sur les apôtres, sur les 120, et il nous a dit qu'ils ont parlé en langue. Et les gens qui étaient là, ils se sont dit, mais ils ne sont pas tous des Judéens. Comment est-ce qu'on les entend parler dans notre propre langue? C'est-à-dire que c'est des langues qu'ils comprenaient, c'était des langues humaines, c'était des gens et ils comprenaient eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils faisaient lorsqu'ils parlaient en langue, les apôtres et les autres? Ils louaient Dieu. Les parler en langue, ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas prophétiser, mais c'est louer les seigneurs. Et il nous est dit même que on peut parler en langue avec les seigneurs, mais si on parle en langue, on n'édifie personne, on s'édifie soi-même. Pourquoi? Parce qu'on lue les seigneurs nous-mêmes, et il y a les seigneurs qui nous comprennent. Au verset 2, il nous est dit, « Il dit des mystères à l'esprit ». L'Église du premier siècle, vous savez, hein, avait besoin de connaître les mystères de Dieu. D'ailleurs, Paul, vous en souvenez, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous révèle les mystères de l'Église. C'est quelque chose qui était inconnu. Donc, c'est aux apôtres que Dieu, il a donné ce don pour pouvoir expliquer. Mais ils ne le disaient pas en langue étrangère. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la Judée, ils étaient dans les endroits où est-ce qu'ils parlaient tous ce langage. À la Pentecôte, ils ont parlé en langue parce que l'Esprit, il leur a donné à chacun de parler des langues différentes. Mais toutes les langues, il glorifiait Dieu, il louait Dieu. Et il nous est dit au verset 2, encore une fois, celui qui parle en langue parle à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu seul les comprend. Il n'y avait pas d'interprète. Voilà pourquoi, plus loin, Paul il nous dit, celui qui parle en langue, il faut qu'il y ait des interprètes. C'est très important, sinon on ne comprend rien du tout. Hein? Et voilà pourquoi il dit, celui qui parle en langue, parle à Dieu. Hein? Il parle à Dieu, parce que Dieu seul les comprend. Et verset 4, il nous est dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il loue Dieu, il s'édifie lui-même, il n'en retire des consolations parce qu'il loue le Seigneur. Et il les rapproche du Seigneur. Parce que lorsque nous sommes en prière, en train de louer Dieu, nous sommes rapprochés avec le Seigneur. Et au verset 5, encore quelque chose qui nous dit de très intéressant, il nous dit, les parler en langue peut être utile. On ne dit pas que les parler en langue il n'est pas utile, mais il dit, il peut être utile s'il y a des traductions. Mais, comme on dit, s'il n'y a pas de traduction, c'est mieux parler naturellement dans la langue que tous ils connaissent. Hein? Donc voilà pourquoi Dieu, il tient. Ça ne sert à rien de parler en langue hein, pour être utile s'il n'y a pas de traduction. C'est comme moi, je vous donne l'enseignement en italien. C'est inutile. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Et au verset 9, il applique les parler en langue et il dit « c'est un message incompréhensible ». Pourquoi c'est un message incompréhensible? Parce que les autres, ils ne sont pas dedans. Et nous savons que le don des langues, ils ont été donnés pour que les messages de l'Évangile, ils puissent être propagés. Et c'est sur cela que nous devons nous. Aujourd'hui, on parle en langue à n'importe quel moment, avec un désordre inouï, et Paul... Dieu, c'est un Dieu d'ordre et il désire que les choses s'effacent dans l'ordre. Si quelqu'un il parle en langue, ce qui doit donner un message de louange, de glorification à Dieu, il faut que tous le comprennent. Et il faut qu'il y ait un traducteur. Ça, c'est très important. Je ne sais pas si vous avez été dans une église pentecôtiste, où ils parlaient en langue, les gens, s'il n'y avait pas de traducteur, on proférait des mots à moitié que les gens ils ne comprenaient pas. Et vous savez pourquoi Paul il parle de ces choses-là? Parce qu'à Corinthe, hein, il y avait le temple de Cybale, et tous ceux qui allaient dans ce temple, ils étaient pris d'un esprit maléfique et ils commençaient à rentrer en transe. Et ils disaient des mots incompréhensibles. Et alors, voilà pourquoi ceux qui se sont convertis, ils croyaient que en continuant à faire ce qu'ils faisaient auparavant dans les temples, ils avaient un plus. Et voilà pourquoi cet homme au 19e siècle, ce pentecôtiste, il a expliqué que on n'est pas sauvé, mais on reçoit le Saint-Esprit lorsqu'on parle en langue, lorsqu'il y a une manifestation. Mais vous savez, pour le don du Saint-Esprit, Paul, il avait dit, repentez-vous, croyez, et vous recevrez le Saint-Esprit. Il y a trois étapes. D'abord, il faut se repentir. Ensuite, il faut croire en Jésus-Christ et le Saint-Esprit, automatiquement et tout de suite, il vient habiter dans le cœur de tous les chrétiens. Eux, ils ont fait ces trois choses, mais eux, ils ont été enseignés qui vont recevoir une manifestation. D'ailleurs, Jésus, il leur a dit, restez ici et vous recevrez une puissance. Mais le Saint-Esprit, il était déjà au-dedans d'eux. C'est cette puissance qui leur manquait. Ils étaient tous réunis dans la chambre haute, en train de prier, mais ils avaient peur. Ils ne sortaient pas. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, alors ils ont ouvert les portes, ils sont sortis, et avec ce don de langue, ils ont commencé à parler, à glorifier Dieu, a montré que Dieu, il était avec eux et que Dieu, il agrandissait ce message de l'évangile qu'ils devaient prêcher. Et aujourd'hui, ils ont mis ces gens-là, ils ont mis l'emphase que sur les parler en langue. Mais à nous, ce qui nous intéresse et ce que la Bible dit, c'est qu'on est sauvé seulement par la foi. Et le Saint-Esprit, une fois qu'on a la foi, il vient dans notre cœur et c'est là qu'on a été baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit et les dons de l'Esprit, c'est exactement la même chose. Les apôtres, ils avaient déjà le Saint-Esprit, mais à la Pentecôte, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Et c'est avec cette puissance qu'ils ont pu propager partout cette nouvelle croyance en Dieu, cette nouvelle foi en Dieu et en Jésus-Christ qui est mort pour leur péché. Et il y a des choses que nous devons savoir. La seule condition pour recevoir le Saint-Esprit et pour être sauvé, c'est la réception du Saint-Esprit. Et comment on le reçoit? À qui est donné le Saint-Esprit? La Bible est claire, l'Esprit est donné à celui qui croit. À celui qui croit, il est automatiquement rempli de l'Esprit, le remplissage. Jésus, il a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et plus loin, il dit cela de l'Esprit qu'il devait recevoir, de l'Esprit, de la puissance, ceux qui croiraient. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, en Pentecôte, il n'arrête pas de dire, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Lorsque nous croyons le Seigneur, lorsque nous mettons foi en Jésus-Christ, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous avons le premier amour en nous-mêmes. La chose qui nous brûle le plus, c'est de dire aux gens qui sont autour de nous que nous avons accepté le Seigneur et nous en parlons à droite et à gauche. Mais cet amour, il s'éteint. Mais ce remplissage, il vient ensuite par une collaboration entière avec Dieu et par une communion intense avec lui. Et il nous est dit aussi que l'Esprit est donné à celui qui obéit à ce que disent les hommes, non, obéit à ce que Dieu dit. Les apôtres, ils ont déclaré au Sanhédrin, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Pourquoi aujourd'hui n'ont pas cette manifestation de l'Esprit? C'est parce qu'ils ne croient pas. Vous en souvenez, les magiciens Simon, hein, il avait demandé aux apôtres de leur accorder à lui aussi le Saint-Esprit pour pouvoir accorder les miracles. Et Pierre, il leur a dit, c'est pas comme ça, c'est pas quelque chose qu'on donne à n'importe qui. Il faut croire et il faut obéir. Tu demandes le Saint-Esprit pour quelque chose qui n'est pas selon la volonté. Donc il faut croire. Il est donné aussi à celui qui obéit. Mais le Saint-Esprit, c'est un don qu'il faut accepter. Et il nous est dit qu'il a été donné aux hommes. C'est quelque chose qu'il a été donné. Pas qu'on doit encore attendre ou recevoir quelque chose, comme disent les gens, les pentecôtistes, pour le don des langues. C'est quelque chose que nous avons déjà. Il y a aussi de prier en langue. Et encore, je vous ai dit au commencement que Paul, il donne l'explication de l'utilisation de langue dans les cultes, dans l'église. On peut prier en langue si on veut, en privé, je peux le faire chez moi, dans ma chambre. Il n'y a que Dieu qui m'entend. Mais dans l'église, dans les cultes, je ne dois pas prier en langue, sauf s'il y a un ou deux interprètes. Pourquoi un ou deux? Parce que vous savez que le bon témoignage, c'est lorsque deux ou trois. Hein, dans l'Ancien Testament. Parce que je peux dire que j'ai l'interprétation des langues, mais si je dis n'importe quoi, alors cela n'est pas valable. Voilà pourquoi c'est quelque chose de très important. Prier en langue est inutile pour l'Église. Pour l'Église. Et pour soi, car on ne comprend pas ce qu'on dit. Quelqu'un dira cela, il dit il dit des choses bibliques, mais si il n'y a personne qui les interprète, comment, encore une fois, Paul il dit, comment dirons-nous Amen? C'est quelque chose qui nous arrive, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un prie en français ou une langue qu'on connaît, on dit Amen, ainsi soit-il, que la chose il arrive. Et voilà pourquoi c'est très important. Et si vous avez bien remarqué au commencement de ces chapitres, Paul, il met en parallèle les langues et les prophéties. Voilà pourquoi il dit, au verset 3, il dit, Paul ne s'intéresse ici qu'à la prophétie, pas la prophétie de celui qui révèle, hein. Parce que les prophètes, il nous a dit que Jean, il était le dernier prophète, hein, le dernier prophète. Jusqu'à quand il y avait des choses à révéler de la part de Dieu, les prophètes, ils révélaient, ils étaient inspirés de Dieu. Mais les prophètes, ils ne faisaient pas seulement que des miracles, mais ils prédisaient, ils annonçaient. C'était une prophétie prédictive, c'est-à-dire que un prophète, la signification biblique, il prend de la parole de Dieu et il l'explique pour faire quoi? Pour édifier, pour enseigner. Voilà pourquoi Paul, il dit, qu'est-ce qu'il fait la prophétie? Trois choses. Premièrement, elle édifie. Chose qui ne fait pas la langue si elle n'est pas interprétée. Il s'édifie lui-même, celui qui parle en langue, mais il n'édifie les autres. Deuxième chose qu'il fait la prophétie, il encourage, c'est-à-dire qu'avec les enseignements de Dieu qui sont dans la parole, il encourage ceux qui écoutent pour qu'ils puissent persévérer, pour qu'ils puissent continuer. Et troisième chose qu'il fait la prophétie, il console. Malgré nous allons nous trouver dans des difficultés, dans des peines, dans des souffrances, la prophétie, toutes les promesses que Dieu nous fait dans sa parole, c'est lui qui annonce cette parole, c'est une annonce prophétique et prédictive, et il nous dit que les promesses de Dieu, ils sont là pour aller plus loin, pour pouvoir continuer dans la foi et de ne pas baisser les bras malgré les difficultés, malgré les peines qu'on peut. Comme aujourd'hui, dans ce qu'on est en train de vivre, dans ce virus, hein, dans lequel nous sommes, et on ouvre et on ferme, et on va pas au culte, à l'église. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui se sont découragés. Et en plus, vous savez, ils ont pris l'habitude, les dimanches matins, ou même un autre jour d'enseignement, au lieu de s'habiller, d'aller pour la communion avec les frères et sœurs, ils se connectent dans n'importe quel site, ils écoutent la prédication, et voilà, mon travail est fait. Mais c'est pas cela que le Seigneur, il nous demande. On ne reçoit aucune consolation, aucune édification, aucune consolation Pourquoi? Parce que c'est dans la communion, c'est là où deux ou trois sont réunis en mon nom que le Seigneur, il est là. Vous me direz, mais moi, dans ma chambre, le Seigneur, il est là aussi. Oui, mais il n'y a pas de communion avec les frères et sœurs. Et c'est ça le plus important. La prophétie, elle était nécessaire, encore une fois, dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que les canons, ils n'étaient pas encore achevés. Ne pas confondre les canons avec les canons. Les canons, c'est l'Écriture, la Bible complète. Vous savez, le dernier livre qu'il a été révélé, c'est l'Apocalypse à Jean, à la fin de la naissance. Donc, à partir de là, la Bible était complète. Aucun autre livre, il pouvait rentrer dedans. D'ailleurs, le Seigneur, dans Apocalypse, chapitre 21 ou 22, je m'en souviens pas, il dit, « Maudit soit celui qui ajoute ou qui retranche quelque chose de ce qui a été dit dans la parole. » Les prophéties étaient nécessaires. Mais lorsque ce livre a été complété, on a vu la semaine dernière que les langues cesseront et les prophéties arriveront à leur terme. Et on est arrivé à ce point-là que le don de langue, il n'y a plus de don de langue. Il ne doit plus en avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des églises locales dans lesquelles on parle la langue que tous ils connaissent. Et s'il y a encore une fois quelqu'un qui vient d'un pays étranger et il nous parle dans une langue que nous ne connaissons pas, alors il faut qu'il y ait un traducteur pour pouvoir bien être édifié, bien être encouragé et bien être consolé. Voilà pourquoi ce don, il était là et il avait les prophètes, les apôtres, une fois que cette période de transition était terminée. D'ailleurs, si vous avez bien remarqué, les actes, il nous explique pas la fondation des églises. Il parle seulement de ce message qui a été prêché partout. D'ailleurs, après les actes, on voit tout de suite l'épître aux Romains. C'est-à-dire que le message avait été propagé dans le monde entier et que partout, il y avait des églises qui avaient été fondées. D'ailleurs, Paul, à Rome, il a dit « Je désire vous communiquer à vous aussi quelques dons spirituels. » Donc, voilà pourquoi on a dit qu'il y a des dons qui sont cessés et des dons qui se sont arrêtés d'eux-mêmes. La prophétie et les dons des langues, ils ont cessé et ils sont arrêtés. Il y a les autres qui continuent, les dons de la parole, les dons de l'exhortation, les dons de la miséricorde, les dons de donner, les dons de prier les uns pour les autres. Toutes ces choses-là, ils sont dons. Pourquoi? Parce que l'Église, elle en a besoin. La prophétie devait... Il nous est dit que la prophétie, il doit être ordonné. C'est-à-dire que dans un culte, dans une église, il ne faut pas qu'il y ait plusieurs personnes qui prophétisent ou qui enseignent. Et ça, c'est normal, n'est-ce pas? Il faut qu'il y en ait un seul qui enseigne. Par contre, pour les langues, encore une fois, dans une église, dans un culte, il peut y avoir quelqu'un qui parle en langue, mais encore une fois, il faut qu'il y ait la traduction. Sinon, on ne peut pas recevoir ce pourquoi ils ont été institués. Et vous savez, on peut juger aussi la prophétie prédictive et les langues. Voilà pourquoi il faut que nous ayons la parole de Dieu entre nos mains pour regarder ce que ces prophètes qui doivent nous donner un message d'édification, d'exhortation, d'encouragement, il est cohérent avec la Bible. S'il ne l'est pas, aberré, il faisait comme ça. Il regardait et Si la chose était conforme à la parole de Dieu, alors il l'acceptait. S'il ne l'était pas, il la rejetait. Et c'est exactement ce que nous devons faire, nous aussi. Rejeter toutes les... Il y avait quelqu'un dans l'église, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Janine, qui est décédée, notre sœur. Quand elle est venue me voir, elle me dit, mais moi je parle... Moi, je parle en langue. Je lui ai dit, écoute, ici, on ne parle pas en langue parce qu'on croit que ce don est périmé. On ne le parle plus. Mais, j'ai dit, lorsque tu es ici chez nous, dans l'église, ne le fais pas parce que nous ne si tu parles en langue, nous ne pouvons pas te dire amen à ce que tu dis parce qu'il faut qu'il y ait une traduction. Et dans ce mouvement des pentecôtistes, il n'y a pas seulement les dons des langues, mais il y a aussi des prophètes. Ils sont là qui disent « Le Seigneur m'a dit ». Ils parlent à la personne « Dieu m'a dit pour toi que tu dois agir comme ça et comme ça et comme ça et comme ça ». Voilà, c'est des choses dont nous n'avons pas besoin d'entendre parce que nous avons la Bible. Hein? Un jour, je voulais dire qu'un jour, j'étais à la maison de la Bible, quelqu'un s'approche de moi, il me dit, mon frère, j'ai une prophétie pour toi. J'ai dit, ah bon? Oui, oui, Dieu m'a dit qu'il t'aime. Mais Dieu a-t-il besoin d'une personne, d'un frère, pour venir me dire, Dieu t'aime? Il me dit que c'est un prophétie. Dieu m'a dit. Non, pourquoi? Parce que j'ai la parole, je sais ces choses-là, parce que j'ai mis ma foi en Jésus, je crois que Dieu m'aime, je crois qu'il conduit ma vie. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui se nomme prophète et qu'il vienne me dire « j'ai une parole de Dieu ». Et vous savez, c'est les gens qui pouvaient dire « ainsi parle l'Éternel », c'est les prophètes de l'Ancien Testament, c'est les hommes de Dieu de l'Ancien Testament, c'est les apôtres, et c'est tous ceux qui ont coopéré, qui ont été inspirés de Dieu, et qui ont formé ce livre dans lequel nous avons mis notre foi. Attention, nous ne mettons pas notre foi dans la Bible, mais nous la mettons en celui dont la Bible parle, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas dire « Dieu m'a dit ». Ainsi parle le Seigneur. En lisant la Bible, oui, on lit la Bible et on lit dans l'Ancien Testament. Ainsi parle le Seigneur. Mais aujourd'hui, on ne peut pas. Voilà pourquoi on a tellement de difficultés à avoir, pas une communion, mais à sortir ensemble, à évangéliser avec un pentecôtiste, un charismatique. Pourquoi? Parce que on n'enseigne pas les mêmes choses. Ils vont outre de ce que la Bible enseigne. Et ça, c'est quelque chose qui est malheureusement pas rare. Parce qu'il y a, surtout dans les pays américains et sud-américains, il y a ces pentecôtistes, ces charismatiques qui se répandent partout. Pourquoi? Parce que tous ces gens, ils aiment bien les manifestations. Mais la chose que la Bible nous dit, que c'est que le Saint-Esprit, il s'est manifesté lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus, ni avant ni après. C'est au même moment qu'on s'est converti, le Seigneur, le Saint-Esprit, il vient habiter dans nos cœurs, il y fait demeure, il tabernacle en nous. Et c'est à cela que nous devons nous tenir. Et ensuite, le Saint-Esprit, il distribue les dons qui sont nécessaires aujourd'hui pour l'édification, pour l'exhortation, pour la consolation, pas de nous-mêmes, mais de l'Église, du corps de Christ. On l'a vu lorsqu'on a vu, on a regardé les dons spirituels, les dons qui sont les hommes. Dieu, il a donné des hommes à l'Église pour qu'ils puissent être enseignés. Les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, ça c'est les hommes que Dieu a donnés à l'Église. Et chacun de ces hommes, ils ont ce don d'enseigner, de consoler, d'exhorter, une parole de soutien et toutes ces choses-là. Voilà pourquoi nous devons nous en tenir à ce que la parole de Dieu il nous dit. Et pas aller ni plus loin, ni s'arrêter avant ou après. Il faut se garder exactement à ce que Dieu il nous dit. Voilà pourquoi ce chapitre 14, il donne des enseignements du premier verset jusqu'au verset 19. Il donne des enseignements comment le don de langue il doit se manifester dans l'Église. Il dit aussi en privé, mais ce qui intéresse Paul, c'est dans l'Église, parce que les dons, ils ont été donnés pour que l'Église soit édifiée, il soit manifesté. Par la suite, Paul il nous donnera les enseignements de la place de la femme, toujours dans l'Église, pas à l'extérieur. C'est ce qui importe Dieu et c'est ce qui importe Paul, parce que ces dons, ils nous ont été donnés pour que l'Église elle puisse avancer, pour que chacun il puisse en retirer les enseignements. On va les lire, ces versets-là. Il dit « Recherchez l'amour ». Aspirer aussi aux dons spirituels. Il ne faut pas seulement rechercher l'amour, mais il faut avoir les dons spirituels. Parce que si on n'a pas les dons spirituels, comment voulons-nous répandre cet amour qu'il y a en nous? Mais surtout à celui de prophétie. Il ne dit pas, il ne nomme même pas les dons. Pourquoi? Parce que celui des prophéties prédictives, hein, préventive, il enseigne, il montre les mystères de Dieu, il nous explique la parole de Dieu, il nous montre les promesses de Dieu. Et au verset 2, il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les connaît. Donc, c'est pas la peine que je parle en langue dans l'Église, hein? Paul, c'est toujours dans l'Église. Il dit, c'est lui qui prophétise au contraire. Hein? Voilà pourquoi il faut rechercher d'abord la prophétie. Au contraire, il parle aux hommes, il les édifie, les exhorte, les console. C'est lui qui parle en langue, s'édifie lui-même, parce qu'il prie en langue tout seul. Il peut prier en langue, il peut louer Dieu. Donc, il s'édifie lui-même. Tandis que c'est lui qui prophétise, qui enseigne, il édifie l'Église. Hein? Ne perdez pas de vue que, encore une fois, Paul, il met le don de langue avec la prophétie mais dans l'Église. Ce qui est intéressant, c'est dans l'Église. Parce que dans l'Église de Corinthe, il faisait n'importe quoi. Il piochait ce qu'il faisait. Et il le ramenait à l'Église. Je vous l'ai dit que dans les temples de Sélène, hein, il y avait des gens qui rentraient en transe, qui disaient des mots incompréhensibles. Et alors, ceux qui se sont convertis, ils ont fait rentrer cela dans l'Église. Verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue. Bien sûr, c'est le désir de Paul, que tous nous louons Dieu en langue, dans notre propre langue, en privé, mais encore plus que vous prophétisiez. Pourquoi? Parce que c'est dans l'Église qu'on enseigne, c'est dans l'Église qu'on édifie. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il enseigne, il exhorte, il édifie. Hein? À moins que ce dernier n'interprète pas pour que l'Église en reçoive l'édification. Il parle de celui qui parle en langue. Hein. Il dit il est plus grand seulement si celui parle en langue. S'il y a quelqu'un qui traduit, alors il y a là aussi l'édification hein, pour l'Église. Et maintenant, frère, verset 6, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Voilà, c'est ça, toujours la prophétie. Elle dit, si je viens à vous qui vous parlez grec, hein, à Corinthe, et je vous parle en hébreu, vous n'allez rien comprendre. Mais je vous parle en prophétie et je vous explique.